Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le massacre oublié de Pointe-à-Pitre en mai 1967. Notre mémoire collective met parfois du temps à intégrer certains événements de notre histoire contemporaine. Ainsi, il a fallu attendre 2009 et la mort du syndicaliste Jacques Binot durant le mouvement social qui bloquait l'île pendant 44 jours pour qu'en métropole, on écoute enfin les souvenirs des survivants et des témoins de ces deux jours de mai 67 où, à Pointe-à-Pitre, les forces de l'ordre ont tiré et assassiné des manifestants ainsi que des passants. Aujourd'hui encore, aucun bilan humain officiel ne fait consensus. Il oscille autour des 87 morts, chiffre donné en 1985 par le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, Georges Lemoine, lors d'une visite en Guadeloupe. Il s'agit sans doute du dernier massacre de civils que notre pays ait connu. 1967, c'est encore une année heureuse des 30 glorieuses de la France du général de Gaulle, déjà loin de la reconstruction et des guerres coloniales et pas encore bouleversée par les grèves étudiantes et ouvrières. 1967, aux États-Unis, ce sont les Noirs qui poursuivent leur marche contre la ségrégation après l'obtention des droits civiques, alors que l'Afrique du Sud, elle, persiste dans sa politique d'apartheid. 1967, en Guadeloupe, c'est l'année terrible, celle de la reconstruction après un cyclone, celle de la répression sanglante de mai. Pour parler de cet événement et de son souvenir, nous recevons après le récit Raymond Gamma, historien et témoin, auteur du livre de référence sur le sujet intitulé « Mai 67 », et Élie Domota, l'une des figures du mouvement de 2009, secrétaire général des travailleurs de Guadeloupe, l'une des organisations porteuses de la mémoire des événements de mai 67. Nos deux invités nous attendent à Pointe-à-Pitre. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Elisa Mar et Lucille Valérie. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle. Lecture Philippe Pierrard et Pascal Pascariello. À la technique aujourd'hui, Gaël Braouzec.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mardi 27 septembre, Inès, un terrible cyclone s'abattait sur la Guadeloupe. Un cyclone d'une violence jamais égalée depuis celui de 1928. Les habitants de l'île ont vécu des heures tragiques sans eau, sans pain, sans liaison téléphonique, sans liaison aérienne, totalement isolés du reste du monde.
Ce désastre n'est supportable qu'à la mesure de notre appartenance à la nation française et à la mesure de la solidité de notre population en Guadeloupe.
Toutes les bananeraies sont détruites. La canne a été passée au peigne fin, elle a été couchée. L'inondation a endommagé de nombreuses maisons.
Le général Valin, qui a fait la tournée générale, m'a rapporté, parce que je suis sénateur de la Martinique, m'a rapporté ce qu'il avait vu, l'impression générale qu'il en avait tirée. C'est un véritable désastre.
Le 27 septembre 1966, sur la Guadeloupe, l'ouragan Inès emporte vie et maison. Il a fallu attendre près de 3 jours pour que les ondes officielles en métropole parlent de ce drame. Quelques jours plus tôt, déjà lors de la visite du général de Gaulle, on s'était rappelé que la Guadeloupe était une terre française. Pointe-à-Pitre était la dernière étape d'un voyage de plusieurs semaines du président français sur les territoires et départements d'outre-mer. Le général avait traversé la planète, de l'Éthiopie au Cambodge, des côtes françaises de Somalie à la Polynésie française, et c'est en Guadeloupe qu'il avait clos ce voyage. 2 semaines après son départ, l'aéroport de Rézé, d'où il s'est envolé, est sous les eaux. Autour de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, habitations, usines, champs et plantations ont tous subi l'assaut du cyclone Inès, qui a emporté 33 vies, blessé des centaines de personnes et jeté à la rue des milliers d'habitants. Conséquence du drame, pendant quelques jours, la Guadeloupe fait la une en métropole, où ministres, députés et personnalités appellent au soutien des sinistrés. Puis elle s'éloigne de nouveau des radars médiatiques. Entre les Antilles et la métropole, l'information circule souvent à contre-temps des événements. Dans les archives papier et audiovisuelles, les articles et sujets sur ce département français se limitent souvent à une catastrophe, une visite présidentielle ou au tourisme. Et pourtant, en Guadeloupe, comme dans de nombreux territoires français d'outre-mer, la situation économique et sociale est tendue. Ici, tout produit de la vie quotidienne est bien plus cher qu'en métropole, et les salaires ne sont pas plus élevés. L'île est une somme de réalités diverses, de classes sociales et de territoires enchevêtrés, séparés. Il y a les importants propriétaires de terres, d'usines et d'hôtels, et les quartiers populaires, insalubres et fragiles. Il y a la poignée d'héritiers du pouvoir politique et financier, et la masse ouvrière des sucrières, des plantations, de la pêche et du bâtiment. Dans l'un de ces quartiers populaires de Pointe-à-Pitre, à Lauricisque, vit un enfant des deux rives de Guadeloupe et de l'Hexagone, Jack Nestor. Fils d'un père militaire originaire de l'île et d'une mère née en métropole, il aurait pu suivre la voie paternelle et devenir fonctionnaire ou faire sa vie de l'autre côté de l'Atlantique. Il choisit d'abord l'armée et s'engage au nom du drapeau tricolore contre les indépendantistes d'Algérie. En 1963, il rend son uniforme et retourne sur son île. Là, il tente sa chance en lançant une entreprise de fabrique de bateaux en plastique, puis s'essaie à plusieurs métiers, dont celui de pêcheur. 1963, c'est aussi l'année de la création à Paris du GONG, G-O-N-G, acronyme de Groupe d'Organisation Nationale de la Guadeloupe, qui refuse l'autonomie mais souhaite l'indépendance. Balbutiante et clandestine, l'action du GONG est d'abord souterraine. Elle se limite à l'information avec la création d'un journal, à des campagnes pour l'abstention lors des élections et à l'aide aux plus démunis, dont les sinistrés de l'ouragan. Quand, précisément, Jack Nestor en devient-il l'un des militants ? Difficile à dire. En tout cas, sur l'île, c'est un visage connu et une voix écoutée. Le 26 mai 1967, il sera le premier à tomber sous les tirs des forces de l'ordre. L'a-t-on assassiné ? Combien tomberont avec lui pendant ces deux jours de révolte et de répression ? Que s'est-il passé à Pointe-à-Pitre en ce mois de mai 1967 ?
Nous sommes aujourd'hui mardi, 21 mars, premier jour du printemps. Il est juste 7 heures.
Des incidents ont éclaté hier à Basse-Terre, à la Guadeloupe. Selon des témoins, le propriétaire d'un magasin de chaussures a lancé son chien sur un cordonnier ambulant habitué à travailler sur les trottoirs et notamment à la hauteur de son magasin. La foule a réagi violemment, elle a saccagé le magasin de chaussures et brûlé les deux voitures du propriétaire qui a échappé de justesse au lynchage. Les CRS et la troupe ont isolé Basse-Terre et le préfet du département, M. Bolotte, a lancé un appel au calme.
L'incident, comme l'appelle le journaliste de France Inter, est le premier événement de ce qui va se jouer deux mois plus tard. L'histoire est la suivante. Tertien Balzinc, un homme âgé et infirme, place son établi de cordonnier sur le trottoir en face de la boutique de chaussures d'un certain Vladimir Snorski. Chaque jour, il se place là et attend les clients. Mais ce 20 mars 1967, M. Snorski lui dit de s'en aller et il ordonne à son chien de le chasser en lui disant « Va embrasser le nègre ». Agressé et insulté, Tertien Balzinc décide de porter plainte. Mais à son retour, c'est la foule qui demande justice. Les murmures de la ville ont transporté comme une traînée de poudre les mots et les gestes du marchand. Alors, dockers, lycéens, ouvriers se massent devant sa boutique, fermée sur ordre des autorités. Malgré la foule de plus en plus compacte, Snorski poursuit ses insultes du haut de son balcon. Il ne quitte les lieux qu'au moment où sa porte est fracturée, sans être arrêté. Alors, la foule se venge sur sa boutique et jette à l'eau l'une de ses voitures. Toute la journée, la rue gronde sous le regard des forces de l'ordre qui scrutent et attendent les ordres. Les RG notent les noms des agitateurs connus des services de police, dont sans doute celui de Jack Nestor. Quelques pierres sont lancées, quelques heurts éclatent ici ou là. La nuit passe, l'accalmie n'est que de courte durée, car dès le lendemain matin, la rue demande toujours qu'on arrête Snorski. Malgré les faits et la colère populaire, le préfet Bolotte refuse de livrer le marchand. Il l'exfiltre même de sa cache, puis le transporte par hélicoptère vers Pointe-à-Pitre, où un avion l'attend. Sur ces terres qu'on appelait indigènes, les lois changent selon le pédigré des prévenus. Snorski n'est pas un simple commerçant blanc et raciste, il est aussi un fervent agent électoral du parti gaulliste. Parmi ses connaissances, on retrouve l'un des hommes les plus influents de la jeune 5e République, Jacques Focard, chef des ombres gaullistes. Secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches, il est l'un des conseillers les plus écoutés du général. Pour cet homme, la Guadeloupe n'est pas une terre inconnue. Sa famille possède de nombreux terrains et son père a été maire de Basse-Terre durant plusieurs années. Alors, quand cette localité s'embrase, c'est tout naturellement vers Focard que les autorités se dirigent pour demander conseil. Dès le 22 mars, le préfet de Guadeloupe, tout comme le ministre de l'Outre-mer, passe par lui pour demander l'envoi d'un second escadron au général, comme le raconte Jacques Focard lui-même dans ses mémoires.
Quand j'en suis venu à l'affaire de Basse-Terre, le général a poussé des clameurs. Comment un deuxième escadron, mais jamais ? Je n'ai pas compris du tout que Bilote me demandait cela. D'ailleurs, il ne me l'a pas demandé. Il faut arrêter avec ces histoires de préfets et de gouverneurs qui s'affolent pour un rien. Ce n'est pas parce qu'un blanc a envoyé son chien mordre les fesses d'un nègre qu'on va envoyer un escadron, c'est ridicule. Combien y a-t-il d'hommes là-bas ? Heureusement, j'avais préparé mon affaire et je lui ai répondu qu'il y avait 600 hommes disponibles.
Sans ce qui est sauvé, l'ordre est rétabli. Pour l'Élysée, l'affaire est close. Pourtant, dès le lendemain, un autre mouvement se met en marche. Le 23 mars 1967, à Pointe-à-Pitre, des ouvriers des entreprises du bâtiment débraillent pendant 2 jours et réclament une augmentation de salaire. 1 mois plus tard, d'autres salariés débraillent eux aussi. Pour mettre fin au mouvement, une rencontre entre syndicats de salariés et patronat à la chambre de commerce est actée. Rendez-vous est pris pour le vendredi 26 mai. La veille, dans les petites cases des quartiers populaires de la ville, on appelle au rassemblement sur la place pour soutenir les représentants. 26 mai 1967, Pointe-à-Pitre. Très tôt, des groupes d'ouvriers grévistes parcourent la ville et les usines pour pousser au débrayage et ainsi rejoindre en nombre la place de la Victoire. C'est là que le drame va se dérouler, devant cette grande bâtisse blanche au style colonial qui héberge la chambre de commerce où syndicats d'ouvriers et patronat négocient. La foule, tantôt compacte, tantôt clairsemée, bruyante, puis silencieuse, attend avec impatience la fin des discussions. Vers 12h45, l'un des responsables syndicaux sort du bâtiment et annonce l'arrêt des négociations. Parce que le patron des patrons, Georges Brizard, aurait prononcé ces mots « Lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail ». Des paroles qu'il a toujours réfutées par la suite. Quoi qu'il en soit, ce sont encore des mots qui embrasent la rue et qu'on colporte de maison en maison. La foule se raidit, puis explose de colère. Les CRS, boucliers, crosses et fusils en avant, présents dès le début de la matinée, se scindent en 2 groupes pour disperser l'attroupement. De l'autre côté, les manifestants s'organisent, se munissent de bouteilles, de pierres et de conques de lambi, un gros coquillage. Premier jet, première heure, premier blessé. Parmi cette foule, Jean Chomereau Lamotte, journaliste et photographe pour le quotidien France Antillais, là, appareil photo en main.
Alors, je traverse donc cette allée, tranquillement avec mon appareil photo, et j'arrive donc au monument aux morts, et il y a un commandant, oui, qui me dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Ah, il me dit « Circulez, ne restez pas là, circulez. » En fait, de circuler, je passe derrière les CRS, déjà en position, et puis, il y a un CRS qui était à peu près sur ma droite, qui fait le malheur d'enlever son casque pour s'éponger le front. Il y a eu un sifflement, et il y a une conque de lambi qui l'a pris en pleine tête. Je l'ai photographié, j'ai eu le réflexe de le photographier. Il est tombé à peu près à 5 mètres de moi. Tout de suite après, dans mon dos, j'ai entendu comme un ordre de tirer. Et c'est parti. Ils ont mitraillé, étant là, tout l'angle. Et les balles ricochaient sur le jet d'eau.
Sur ces photos, les seules de l'événement prises place de la Victoire, on peut voir les compagnies de CRS par petits groupes en short, casque sur la tête, certains avec des boucliers, les autres armés de pistolets mitrailleurs MAT 49. Après les explosions de fumigène et le choc des conques sur le sol, ce sont des tirs qu'on entend désormais dans la rue. Jack Nestor est là, il est le premier à tomber, touché en plein ventre. Comme pour les gens des quartiers de Pointe-à-Pitre, Jack n'est pas un inconnu pour les autorités. Savent-elles qu'il fait partie du gong ? A-t-il été visé volontairement ? En tout cas, c'est tout un symbole qui vient d'être touché. Les mains sur le ventre, il arrive à l'hôpital à bord d'une camionnette entourée de ses camarades du jour. Marcel Delphine était alors infirmière à l'hôpital général. Elle témoigne.
Je me suis précipitée dehors et quand je suis arrivée, la camionnette s'arrêtait. Nestor était à l'intérieur. Il avait un trou béant dans le ventre et il tenait ses intestins entre ses mains. Je ne pense pas qu'il était conscient. Ou peut-être après réflexion. Mais il y avait du son partout, et je me suis mise à hurler. On est en train d'assassiner notre peuple. Et le personnel s'est mis à crier. Et à ce moment-là, une deuxième voiture est rentrée en trombe, avec un deuxième corps, un jeune qui était déjà mort, la tête éclatée. Et il y avait aussi 4 ou 5 blessés dans la voiture.
Jack Destor meurt quelques minutes plus tard. Il avait 26 ans. Le second corps, amené à un crâne ouvert par une balle, est sans doute celui d'Harry Pincemaille, fauché lui aussi par une rafale des forces de l'ordre. Alors qu'à l'hôpital, minute après minute, l'étendue du drame se dessine, dans la ville, les noms des premiers morts prennent le pas sur le bruit des armes. Désormais, aux côtés des manifestants du matin, jeunes, petits employés et chômeurs des quartiers populaires viennent renforcer la foule. La colère devient rage et l'escalade de la violence se poursuit dans chaque camp. Les boutiques sont vandalisées, une armurerie est dévalisée. Des armes sont désormais dans l'autre camp, mais souvent sans les bonnes munitions. La guérilla urbaine prend forme quartier après quartier. À la préfecture, après avoir donné l'ordre de faire feu, le préfet Bollotte déploie les gardes mobiles présents sur le territoire depuis les événements de mars. Les képis rouges, comme on les surnomme ici, prennent place dans les rues et faubourgs des quartiers populaires pour arrêter des personnalités politiques et syndicales et poursuivre la répression aveugle. Le soleil se couche sur la ville, la répression et les tirs se poursuivent. Dans certains quartiers, toute ombre est désormais une cible, une victime potentielle. Et c'est le cas pour Solange Coudrieux. Ce 26 mai, il était chez ses beaux-parents avec sa femme. Il avait projeté de faire des boutiques avant de rentrer chez lui. En fin de journée, après une annonce à la radio d'un retour au calme dans la ville, il décide d'aller à la mairie pour connaître les conditions de circulation et ainsi rejoindre sa commune située en dehors de Pointe-à-Pitre. Il quitte sa femme, ses beaux-parents, arrive aux abords de la mairie. Et là, sa vie bascule. 42 ans après les faits, il se souvient de cette nuit au micro de Daniel Mermet et Antoine Chao pour l'émission « Là-bas, si j'y suis ».
J'ai vu un jeep et 3 voitures de militaires. J'ai dit bon, je me suis apitoyé sur leur sort, j'ai dit bon, ils regagnent la caserne. J'ai entendu une première détonation. J'ai dit tiens, il y avait France Antilles qui brûlait. J'ai cru que c'était une vitre de France Antilles qui éclatait. Et j'ai entendu une deuxième détonation. À ce moment-là, je me suis senti soulevé de terre et je suis tombé, j'ai vu ma jambe droite qui était presque arrachée. J'avais le dos tourné, ils m'ont tiré dans le dos comme un lapin. Bon, j'ai fait le mort, je suis resté à terre et criant, demandant aux gens de venir me ramasser, mais je vois personne ne voulait venir me ramasser.
Combien sont-ils à avoir été abattus froidement ce soir-là dans la rue par la police française? Combien sont-ils laissés sur le trottoir ou emmenés à l'hôpital ou dans une maison?
Soban mwen a fi a sot Nan ka gade sa ka pase Ni de moun fon nou poursuiv pou krim kont la Guadeloupe O paket pou nou kan mò pou mè Mèm si ke a yo vi nan mè Monte alian se vande de frè Ou ganye tro farete lontan Pase de meri an eritaj Les autres rien qui chômage, on vient dit l'argent en cas gagné, en cas gardé les autres qu'à bon penser. Mais moi-même, pas mes qui ont d'autres, pour sauver moins à vie à sorte, n'en cas gardé ça qu'à passer, ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Je n'ai qu'à dire pas ni à rien pour yo, et quand yo même qu'à faire baillot, c'est fait si n'a te critiqué. Pendant yo ka gade télé Messie imite pas dignité Caribbean n'a pas un qui parle anglais En ka di ça et ça sérieux Ni de moun ouè Moi même pas meye qui yon dot Mon soban mouen a vie a sot N'en ka gade sa ka passe Ni de moun fon nou poursuivre pour crime
France Inter, vous écoutez Affaires Sensibles Aujourd'hui les massacres en Guadeloupe il y a 49 ans 27 mai 1967. Décalage horaire oblige, c'est dans la nuit que les hommes du président sont prévenus des troubles à Pointe-à-Pitre. Parmi eux, bien sûr, l'incontournable Jacques Foccart. De sa maison de campagne dans l'Oise, il transmet les premières instructions par téléphone en attendant le réveil du général à l'Élysée. Dès l'arrivée du président, il lui demande audience. La suite, il la raconte dans sa mémoire à la date, précisément, du 27 mai 1967.
Mon général, je dois vous mettre au courant d'incidents assez graves qui se sont produits hier et une partie de la nuit à Pointe-à-Pitre. Tout a débuté par une réunion des patrons et des représentants des syndicats du bâtiment à la chambre de commerce. Les pourparlers à l'intérieur de la salle se passaient très bien lorsqu'une centaine de manifestants ont commencé à faire du bruit et ensuite à vouloir interdire la sortie des représentants patronaux. On a fait appel au service d'ordre qui a été très rapidement attaqué à coups de pierres et de matériaux de toutes sortes et il a fallu dégager la place avec une certaine violence. Dans le même temps, on apprenait que les armureries étaient attaquées et pillées et que de petits commandos se répandaient dans toute la ville en manifestant contre les Blancs. Il y a eu pas mal d'arrestations, parmi lesquelles celles d'environ 16 responsables du gong. Pour la première fois, c'est assez grave. Les manifestants ont tiré sur les forces de l'ordre. Le bilan provisoire est d'un ou deux tués et 30 blessés, dont 15 gravement atteints de notre côté. Certains CRS, atteints par des plombs, risquent de perdre un œil ou même les deux yeux.
Les mémoires ont cet avantage d'agencer les souvenirs selon la trame que l'on désire. Le général écoute, valide les choix de son conseiller, puis passe à autre chose. Pourtant, à 6500 km de là, ce 27 mai 1967, la situation est toujours aussi sensible. Au 25 de la rue Barbès, Max Jazor, un adolescent de 13 ans, se lève et observe la rue. Devant chez lui, il découvre son père, le visage tuméfié, les côtes brisées. Hubert Jazor n'est ni manifestant ni indépendantiste, c'est le libraire de la rue. La veille, il a été témoin des affrontements sur le port. Alors qu'il protégeait un matelot blanc de la colère de la foule, il reçoit un coup de matraque. Il se rend alors à l'hôpital pour effectuer les premiers soins. C'est à son retour qu'une équipe de garde mobile l'attrape et décide de l'emmener avec d'autres dans la cour de la sous-préfecture. Comme le 11 octobre 1961 à Paris, sous les fenêtres de l'autorité républicaine, Hubert Jazor et d'autres sont battus sans retenue. Sous les corps inertes où il se cache, il entend les coups, les os qui se brisent et les mots de ses tortionnaires, dont ceux-ci. Les morts, on les fout à la darse ou à la gabarre. Comprenez, jeter les corps à l'eau, soit au port, soit par-dessus le pont qui sépare Grande-Terre de Basse-Terre. Hubert Jazor, encore conscient, est amené à la gendarmerie où il est de nouveau cogné. Au petit matin, à peine conscient encore, il est déposé devant chez lui, vivant mais le corps meurtri de coups. Combien ont-ils battu à mort, puis jeté à l'eau? Ce 27 mai 1967, dans la ville, les rues sont jonchées de carcasses de voitures calcinées, de pierres et de cons de lambis, tandis qu'on retrouve les éclats de balles dans les murs. La journée et la nuit ont été terribles, et pourtant tous les services de la ville sont ouverts, y compris les établissements scolaires. Dans les lycées, les élèves décident eux aussi de prendre la rue pour manifester leur soutien aux blessés. Comme la veille, CRS et Képi Rouge les repoussent sans ménagement, et de nouveaux tirs se font entendre. La guérilla se ravive, les pierres et conques volent, des vices s'éteignent de nouveau. Il faut attendre la fin de journée et la reprise en main de la ville par un général venu de Martinique pour que l'ordre reprenne ses droits. Durant cette journée, certains ont recherché leurs proches disparus depuis la veille. Ils ont fouillé les rues, appelé les amis, les camarades, se sont renseignés dans chaque service des hôpitaux. Emmanuel Angèle Gravery, lui, a cherché son père toute la journée et l'a retrouvé sur un lit d'hôpital, méconnaissable. Comme il le raconte dans le documentaire de Xavier Maribaudeau et François-Xavier Guillerme, mai 67, un massacre oublié.
On a vu des gens qui étaient dans les couloirs, des blessés. Bon, on n'a pas vu notre père. Et à un moment, on rentre dans une chambre. On nous dit, tiens, ben, alors mon frère est né, il dit, mais on dirait que ce monsieur ressemble à papa. Et il regarde, on n'a pas reconnu notre père. Mais mon frère Paul qui était là, il dit, mais voilà, mais c'est papa, sa chevalière. Il était méconnaissable. Mon père, qui était quand même de corpulence plus large que moi, un peu plus longiligne, il était beaucoup plus clair de peau que moi, comme à peu près mon épouse. Hein. Mon père, il était gris foncé, Il était avec des bleus partout. Il avait une tête qui était énorme. Énorme. Et le médecin nous dit, mais votre père peut être sauvé si on arrive à passer la nuit. D'ici le lendemain, on verra bien comment les choses ont évolué. Le lendemain, dimanche, qu'on arrive à voir notre père, parce que comme partout, il y a des règles, il y a des heures pour y entrer, des heures pour de visite. Nous arrivons, le père disparu. Jusqu'à aujourd'hui.
Le père d'Emmanuel Angèle Gravery est l'un d'un nombreux disparus dont on ne connaît ni le nombre, ni le lieu où il repose. Durant ces deux jours, à Pointe-à-Pitre, des dizaines de personnes ont été tuées par balles, des centaines blessées gravement. Et pourtant, le lendemain, le 28 mai, en métropole, sur les ondes de France Inter, l'information fait l'objet d'une simple brève.
Des Antilles, ces nouvelles. Le calme est revenu à la Guadeloupe. Après les graves incidents d'hier, des incidents qui ont fait 3 morts et 60 de blessés, dont 30 parmi le service d'ordre.
C'est à l'issue d'une réunion organisée à la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, entre délégués des patrons et des ouvriers du bâtiment, qu'une manifestation de jeunes a dégénéré en bagarre. Les manifestants ont lancé des pierres sur le service d'ordre, certains ont pillé des magasins d'armes et ont tiré. Des voitures ont été incendiées, ainsi que les locaux d'une importante entreprise de travaux publics. Il y a eu 24 arrestations. À Paris, le ministère des départements et territoires d'outre-mer confirme que l'ordre a été rétabli et il dément qu'il ait l'intention de faire venir de Cayenne des renforts militaires.
Voilà, c'est le 3e et dernier billet sur les événements de Pointe-à-Pitre diffusés sur la radio de service public. Comme dans la presse nationale d'ailleurs, où le drame qui s'est joué à Pointe-à-Pitre n'est mentionné qu'avec les mots dictés par le ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Aucun journaliste de la presse nationale ou des médias d'État n'ira sur place pour comprendre ce qui s'est passé durant ces 2 jours, où selon le bilan officiel annoncé par le préfet Bolotte, 7 personnes ont trouvé la mort et 29 membres des forces de l'ordre ont été blessés par des armes à feu. Sur place, le préfet demande au patronat de faire un geste pour éviter une nouvelle journée de colère. Le 30 mai, les représentants des syndicats patronaux et ouvriers trouvent un accord qui acte une augmentation des salaires de 25%. Dans le même temps, une série d'arrestations a lieu. Les autorités accusent le GONG, mouvement indépendantiste guadeloupéen, d'être à l'origine des troubles qui ont secoué Pointe-à-Pitre. Une 50aine de personnes sont alors recherchées, arrêtées et incarcérées en Guadeloupe et à Paris. Leur procès a lieu 9 et 10 mois plus tard. Paris, 19 février 1968. Le procès des Guadeloupéens, comme on les appelle dans la presse, s'ouvre. Sur le banc des accusés, ils sont 18, inculpés pour atteinte à la sécurité et l'intégrité du territoire relatives aux événements de mars et mai 1967. Par stratégie, leurs avocats médiatisent et politisent le procès comme ils le peuvent, en appelant à la barre des personnalités dont Aimé Césaire, grande conscience créole, et le philosophe Jean-Paul Sartre qui rappelle le contexte, les raisons du combat de ces militants, l'histoire de cette île à laquelle en métropole on s'intéresse si peu. Une seule victime de la répression accepte de parler et ses mots renversent l'opinion des journalistes et des jurés. Cet homme, c'est Solange Coudrieux dont vous avez entendu le témoignage en première partie de récit. Appuyé sur ses 2 béquilles, il raconte cette nuit où on lui a tiré dessus sans raison et où il perdit sa jambe. Après plusieurs jours d'audience, la Cour de sûreté statue en faveur des inculpés. Elle prononce l'acquittement pour la plupart d'entre eux et des peines avec sursis pour les autres. Puis c'est à Pointe-à-Pitre qu'un second procès s'ouvre pour 20 personnes dès le mois d'avril 1968. Durant plusieurs jours, comme lors du procès de Paris, l'ambiance est tendue devant le palais de justice. Mais le verdict est tout aussi clément. 8 inculpés sont relaxés, 11 sont condamnés à des peines de prison avec sursis. Seuls les détenteurs d'un casier judiciaire sont condamnés à des peines de prison ferme qui n'excèdent pas 18 mois. Ni le préfet, ni le commissaire ou les membres des forces de l'ordre n'ont été inquiétés. Pourtant, à la fin de ces 2 procès, des questions demeurent. Pourquoi a-t-on donné l'ordre de tirer? Y a-t-il eu sommation? Pourquoi, après les premiers morts, la répression s'est-elle poursuivie? Quel est le véritable bilan? Combien y a-t-il eu de disparus? Et enfin, que s'est-il passé dans la cour de la sous-préfecture? Le 26 mai 2007, soit 40 ans après les faits, une fresque financée exclusivement par souscription populaire a été inaugurée. C'est le seul monument au souvenir de cet événement. On y voit les CRS en short, armes à la main, des hommes en face, dont Jack Nestor, une balle dans le ventre et puis un smile, le crâne ensanglanté. 7 ans plus tard, à la suite de l'arrivée au pouvoir de François Hollande, une commission indépendante de recherche historique a été créée pour faire toute la lumière sur ces événements. Son rôle est de trouver des réponses au sein des archives et de comprendre les faits précisément, heure par heure, et ainsi permettre de trouver une place dans notre mémoire collective et nationale à ce massacre oublié des années de Gaulle et des débuts de la Ve République.
L'année d'un là, ça a bien changé.
Bon, gardez nous bon.
Où qu'a songé l'année passée.
Bon, t'es gardé d'ailleurs.
L'année d'un là, faites attention.
Bon, gardez nous
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les massacres en Guadeloupe en mai 1967 avec deux invités en direct des studios de Guadeloupe Première que nous remercions pour leur accueil, messieurs Domota et Gama. Elie Domota, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, l'une des figures du mouvement de 2009. Raymond Gama, bonjour également.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes l'auteur du livre qui fait référence hein, sur...
Aujourd'hui à la retraite quand même.
Oui, bah, vous restez escalité, voilà.
Absolument.
En tout cas, vous avez écrit ce livre qui fait référence sur l'histoire du
avec
jour.
Jean-Pierre Saint-Ton.
Ouais, intitulé « Mai 67 ». Alors je précise pour nos auditeurs de Métropole, « Mai » est écrit « M ». Et accent aigu, hein, pas M.A.I.
En créole, en Guadeloupe.
Tout simplement. Coécrit donc avec Jean-Pierre Saint-Ton, effectivement, et publié en 1985. On va commencer par ce livre, monsieur Gama. Racontez-nous pourquoi et comment vous avez décidé de travailler sur ce massacre oublié que nous avons à notre tour exhumé aujourd'hui sur l'antenne de France Inter.
Mais pour faire court, il s'agit d'abord d'une commande en tant que militant. Nous étions tous les deux militants patriotiques d'une organisation à l'époque et qui nous a, dont la direction nous a, disons, non pas commandé, mais enfin...
Encouragé, quoi.
Oui, ils ont demandé de produire une petite brochure, disons quelque chose qui puisse permettre aux militants de fixer leur mémoire. Et là, lorsque nous nous sommes penchés sur la documentation qui nous est parvenue, nous avons décidé finalement de poursuivre notre offre, puisque nous étions de formation historienne, et ça a donné un travail beaucoup plus conséquent que la commande qui avait été demandée, et nous avons ainsi pu produire l'œuvre que vous avez aujourd'hui en main.
Voilà, et effectivement, c'est un vrai livre, hein, puisqu'il fait 311 pages.
Absolument.
Je l'ai entre les mains. Elie Domota, alors on l'a dit succinctement dans le récit, mais je préfère m'appuyer sur vous, parce que vous connaissez évidemment bien mieux. Quelle était, au début des années 80, la place du souvenir de mai 67 au sein de la mémoire militante, ouvrière, guadeloupéenne?
Écoutez, c'était quelque chose dont parlaient seulement les militants les plus aguerris. J'ai 49 ans, donc j'ai l'âge des événements. Je suis né en janvier 67. Je suis originaire de Basse-Terre. Mon père est originaire de Basse-Terre et jamais il ne m'a parlé de ces événements alors que l'affaire Strinsky s'est passée grosso modo à 300 mètres de notre maison. Et dans les années 80, seuls les militants les plus aguerris, les militants nationalistes de différentes organisations comme l'UPLG, osaient encore parler de cette période-là. On avait l'impression qu'il y avait une véritable chape de plomb sur les familles pour ne pas parler de ces événements-là.
Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient glorieux, dramatiques mais glorieux, parce que c'est quand même l'affaire d'une partie du peuple qui se soulève. Donc il y a un acte courageux. Pourquoi on n'en parle pas ? Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cette chape de plomb ?
La peur, car dans toutes les colonies, et on le voit si on fait le recensement des crimes coloniaux, la gestion des mouvements sociaux dans la terreur est une constante, justement pour faire en sorte de bien faire comprendre aux gens, baisser la tête, et à chaque fois que vous allez oser relever la tête, nous allons vous tailler. Et on peut revenir dans l'histoire. En 1802, la guerre de 1802, lorsque Napoléon vient rétablir l'esclavage en Guadeloupe, c'est la terreur. Plus de 300 combattants sont exécutés, puis guillotinés, décapités sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Les crânes sont mis sur des pics en bois pour montrer aux autres, mais voilà ce qui va vous arriver si vous osez vous rebeller. Donc c'est une constante du pouvoir colonial de gérer les mouvements sociaux dans le cadre de la terreur. Et mai 67 ne déroge pas à la règle.
Alors là encore... Un point qu'on a abordé dans le récit, mais il sera encore plus fort dans vos propos, Raymond Gamma. Quel est le contexte en Guadeloupe en cette fin de décennie 60? Quelle est la situation économique et sociale du pays?
Alors, il faut dire que pour ce qui concerne la Guadeloupe à cette époque, vous avez très bien décrit au début de votre récit historique concernant la Guadeloupe, la situation à cette époque. C'est-à-dire qu'il faut absolument, considérer que le passage du cyclone Inès de septembre 1966 joue un rôle prépondérant dans la dégradation de la situation sociale, en fait dans la situation des ouvriers qui sont déjà frappés depuis la fin des années 50 par les fermetures d'usines. Je parle surtout au niveau de la campagne. Et ces personnes-là, justement, devant, les fermetures, notamment pour ce qui concerne 66 Marquisa, je parle de l'usine Marquisa à Capesterre ou de Courcelles à Sainte-Anne, de l'autre côté du petit Gull de Sac-Marin, eh bien, ces personnes-là affluent vers la ville. Et pourquoi affluent-ils vers la ville? Parce qu'il est entendu au niveau de la nouvelle municipalité qui est en place à Pointe-à-Pitre, en l'occurrence le communiste Bangou, qui dirige le bureau politique du PC, qu'il va y avoir une rénovation, un Pointe-à-Pitre en pleine rénovation, avec bien évidemment l'accord des pouvoirs d'État, et cela crée un bouillonnement sur le terrain, disons, du bâtiment. Autrement dit, le béton donne du travail, et ce qui assure du beurre pour les patrons, mais pas forcément la même chose pour les ouvriers. Donc ce sont les heures supplémentaires, les journées de 14-18 heures, etc., et qui ne sont pas rémunérées, disons, de façon correcte. Donc voilà un petit peu la situation de ces jeunes qui, pour la plupart, suivent les aînés, qui font le mouvement le matin de la campagne vers la ville, et pour la plupart tentent de regagner leur domicile de soir, mais de plus en plus commence à habiter la périphérie de la ville de Pointe-à-Pitre. Voilà un petit peu la situation. Donc on a ces bidonvilles qui enserrent la ville coloniale de Pointe-à-Pitre. Et donc au début de l'année 67, nous sommes en plus en année électorale, c'est-à-dire que il va y avoir les législatives en mars. Et donc cette situation sociale et économique particulièrement grave, s'enchasse sur une situation politique qui n'est pas des plus flamboyantes.
Alors parlons-en, la situation politique, parlons-en. Par rapport à, pardon de vous couper, mais dans les années 60, fin des années 60, la décolonisation est passée, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique noire, puis plus difficilement pour l'Algérie. Et vous, quel sentiment vous avez, vous, d'être colonisé. Comment vous vous sentez par rapport à ce mouvement d'émancipation qui a eu lieu ailleurs?
Alors, il faut dire que, notamment pour ceux qui concernent ma génération, nous sommes, j'ai 20 ans en 1966, oui. Lorsque ces événements surviennent à Pointe-à-Pitre, je suis un jeune homme, un jeune militant, et ça fait plusieurs années qu'un certain nombre d'entre nous, pour la plupart jeunes lycéens ou étudiants, eh bien nous mobilisons parce que nous ressentons une injustice, une profonde injustice, non seulement par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire que nous avons été les oubliés en quelque sorte de la décolonisation, mais en plus parce que sur le terrain, le mépris et la discrimination s'expriment avec hargne et avec force dans les campagnes, autour, sur les habitations, comme on dit, ou de plus en plus en ville, puisqu'il y a également le fait que sur la Guadeloupe affluent un certain nombre de pieds noirs qui quittent l'Algérie et qui s'installent notamment dans le domaine du bâtiment en Guadeloupe. Donc voilà une situation qui politiquement se traduit par une secousse au sein des forces, disons, je dirais, de gauche, en particulier pour ce qui concerne le Parti communiste. À partir des années 66, il y a une forte secousse qui aboutit à une scission en décembre 1966, ce qui provoque lors des législatives de mars 67, disons, une confrontation au sein même de ces forces qui militent pour un changement, en l'occurrence pour la décolonisation du pays.
Vous assistez donc à ces événements. Vous avez 21 ans à l'époque, c'est ça?
Je n'assiste pas, je suis un militant.
Oui, participez.
Oui, je ne suis pas un assistant.
Non, bien sûr. Vous avez raison de me reprendre. Vous participez très activement.
Je suis militant du CPNJG, du Comité Populaire et National de la Jeunesse Guadeloupéenne.
Et quels souvenirs vous en gardez?
Je garde le souvenir du vendredi 26. Le vendredi 26, j'étais avec deux amis sur le Rézé, c'est-à-dire un peu à la périphérie de la ville, et je rentre en transport en commun, comme on dit, en bus, par le vieux bout Abîme, donc dans Pointe-à-Pitre. J'arrive au carrefour de la rue Asselin du boulevard Légitimus, et là je vois une agitation, une forte agitation de jeunes d'ailleurs qui affluent vers le bus et qui donnent l'ordre au chauffeur de s'arrêter, etc., etc. Et là je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors j'étais au courant des manifestations de la veille, de l'avant-veille qui se déroulaient sous la direction des syndicats, mais je n'étais pas au courant de la confrontation qui avait lieu dans l'après-midi, disons à partir du milieu de la journée du 26. Et là, je descends, je retrouve mes camarades à la rue Asselin, à un lieu où on avait l'habitude de se retrouver en fin de journée, et ils me font le récit des premiers événements, ils me disent que Nestor a été tué, etc., etc. J'ai été particulièrement ébranlé, je vous avoue, et vers, que j'ai pris l'habitude de le dire, nous étions pour l'autonomie au niveau du CPNJG, mais ce vendredi 26 mai, vers, 16h30, 17h, j'étais un militant indépendantiste, définitivement.
Voilà, vous voyez le divorce avec Paris, quoi.
Ah oui, c'était le divorce complet.
Élie Motta et Raymond Gamma. Raymond Gamma, je vais vous passer la parole dans une petite minute, après avoir écouté, on va l'écouter ensemble, une nouvelle archive, un extrait d'une émission de Là-bas, j'y suis, de Daniel Mermet, réalisée en 2009. Alors, un homme, Pierre Luce, qui était sur place, raconte la mort de l'un de ses proches pendant ces événements, et le besoin, ça qui est important, le besoin aujourd'hui d'en parler.
J'avais 17 ans à l'époque. Et j'étais avec quelqu'un qui s'appelait Omer Tidas. On allait voir un ami et nous ne savions pas qu'il y avait des manifestations. Nous avons traversé toute cette partie-là. Il devait aller récupérer sa voiture pour faire de l'essence. Et nous arrivions juste à côté du boulevard et brusquement, on voit arriver des camions qui s'arrêtent pratiquement à notre hauteur et qui se mettent à tirer, qui tirent une balle en pleine tête. Omer Tidas tombe, complètement couvert de sang, il est tombé sur moi. Je suis resté là, avec son sang sur moi. Je ne sais plus raconter ce qui s'est passé, parce que j'ai comme une espèce de vide dans ma tête. C'est vrai que depuis 67, j'ai dans la tête ce bruit de fusil, que je n'ai pas complètement digéré, parce que j'ai comme une espèce de trou noir. C'est vrai aussi que c'est la première fois que je parle de cette affaire-là, parce que je n'ai jamais réussi véritablement à le dire. Mais compte tenu des événements de ces quelques jours qui viennent de se passer là, j'ai pris la décision, moi, un peu de me libérer de cela. C'est un peu comme une thérapie à la fois pour moi, mais aussi comme quelque chose que je dois à cette population-là, que de dire qu'il y a des exactions qui se sont produites à cette année-là, que je ne souhaiterais pas que cela se reproduise de nouveau pour mon peuple. Voilà.
Elie Domota, vous étiez l'une des figures du mouvement de 2009. Est-ce que vous pensez que ce mouvement, précisément, a mis fin au refoulement et au silence autour des événements de mai 67?
Un peu, mais pas tout à fait, parce que vous savez que la chape de plomb, elle est extraordinairement épaisse, car jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui se manifestent pour nous essayer de nous parler d'un certain nombre de choses. Dans les années précédentes, depuis pratiquement la fin des années 90, on interpelle pratiquement chaque année le président de la République française, le ministre des Outre-mer, sur ces questions-là. Nous n'avons jamais de réponse que les réponses dites officielles. Oui, nous avons bien reçu votre courrier. Nous avons entamé des actions aussi auprès des services d'état civil de l'ensemble des communes de la périphérie pointoise pour les années 66, 67, 68, recueillir les actes de décès pour voir quelles étaient les différences de mortalité entre sur 3, 4, 5 années. On n'a pas trouvé de pic particulier, ce qui laisse à penser que les morts ont été enterrés dans la plus stricte intimité familiale, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent de parler de cette période-là alors que leurs proches ont disparu. Et c'est une situation qui est d'autant plus douloureuse que des enfants posent des questions aujourd'hui. Donc, petit à petit, la parole doit se libérer et pour qu'on puisse faire le deuil et connaître la vérité. Parce que, vous savez, je parlais il y a quelques instants de cette tradition du système colonial de gérer dans la terreur. C'est ce qui s'est passé en 1910, mais là, il y a eu que deux morts. C'est ce qui est passé en 1925, mais là, entre guillemets, il n'y a eu que 5 morts. En 1952, il y a eu 4 morts. En 67, c'est certainement plus d'une centaine de morts. Donc, en fin de compte, dès qu'il y a des mouvements sociaux, il y a en face tuerie, il y a massacre et gestion dans la terreur. Et la grande crainte, justement, du mouvement en 2009, c'était de tomber encore une fois dans cette phase de répression. Car rappelez-vous, 30 jours après les mobilisations, les seuls propos de M. Sarkozy et de Mme Alliot-Marie, c'était d'envoyer des troupes supplémentaires, d'ailleurs à la demande de Victorin Lurel à l'époque, des troupes supplémentaires de gendarmes pour gérer l'ordre public au lieu de répondre aux revendications de la population et des personnes qui étaient dans la rue. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que sans cette médiatisation et sans cette solidarité internationale, sans doute qu'une fois de plus, les militaires auraient tiré dans la foule.
Et bien, Mota, une commission indépendante de recherche historique a été créée pour faire la lumière sur ces événements. C'est un pas qui a été fait quand même, non ?
Écoutez, un pas, mais en quelle direction ? Je ne sais pas trop. Personnellement, et je n'ai pas confiance, car je crois que quand on veut aller au fond des choses, eh bien, on fait une commission d'enquête parlementaire et on donne les moyens pour arriver jusqu'au bout. La commission devait rendre son rapport il y a pratiquement un an et demi. Son mandat a été prorogé. Ils étaient en Guadeloupe la semaine dernière pendant deux journées. J'ai entendu l'un de ses membres parler à la presse. Je n'ai pas l'impression qu'il en sortira grand-chose au niveau des responsabilités de chacun. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit dans votre récit, ce sont des militants du GONG qui ont été traduits devant la justice, ce sont des jeunes étudiants et lycéens qui ont été traduits devant la justice, le préfet Bolot a été décoré, les militaires ont été décorés, et comme à chaque fois, lorsqu'il y a des mouvements sociaux dans nos pays, eh bien, les victimes, c'est toujours dans le camp des travailleurs, dans le camp de la population, et les médailles pour ceux qui sont en face et qui tirent.
Raymond Gamma, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur le nombre de morts exacts, puisque aucun bilan officiel n'a jamais été publié? Alors on est autour de 87 morts. Évidemment, c'est pas satisfaisant de dire autour de 87 morts, parce que peut-être qu'on oublie des vies fauchées pendant ces événements.
Absolument. Alors, il faut dire que l'historien Gamma a eu l'occasion d'être confronté à un certain nombre de documents pour essayer de voir un petit peu la lumière sur cette affaire-là. Et je dois dire que l'élément le plus symptomatique là-dessus, c'est la déclaration que personnellement j'ai entendue à Radio Guadeloupe de la part de Monsieur Lemoine. Déclaration qui était due à une interview, je me souviens, il me semble, de Jean-Claude Lefort. Nous étions donc autour des années en 1985.
Oui,
Et c'était à 13h. Personnellement, j'étais à Pointe-à-Pitre. Je parle en tant que témoin, mais historien à ce moment-là, parce que nous portions la dernière main sur l'ouvrage que vous avez cité auparavant. Mmh. Et là, j'appelle Jean-Pierre Saint-Ouen et je lui dis, tiens, voilà ce que je viens d'entendre. Alors bon, nous n'avions pas d'éléments, je parle de documentation écrite là-dessus, mais nous avions des échos en termes de, disons, de témoignages oraux qui nous indiquaient que les morts avaient commencé dans la matinée du 26 du côté de Jarry, dans la zone de mangrove, etc. Donc nous étions inquiets parce que nous ne comprenions pas comment parvenir à justifier un certain nombre de morts sur lesquels, eh bien, on n'a aucune trace écrite.
Ça veut dire pour vous, dans votre esprit, il n'y a plus de 87 ?
Ben écoutez, j'ai rencontré M. Lemoine lors d'une conférence internationale à Alger. Et on me l'a présenté, je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir consulter ses notes, c'est-à-dire mais sur quoi il s'était basé pour affirmer cela. Il m'a dit, bon, je vous... écrivez-moi, etc., etc. Bref, je lui ai fait une note au nom des auteurs du livre de mai 67, et il m'a répondu, et il m'a donné l'autorisation de consulter ses notes. Et c'est son dépôt qui était à Fontainebleau. Mmh. Fontainebleau qui a abrité les archives contemporaines de la France jusqu'à il n'y a pas longtemps.
Et donc
avant Pierre Fitte. Alors, ceci étant, quand j'ai voulu consulter le document qui me paraissait principal concernant cette affaire-là, eh bien, ce document démarre à la page 17. C'est-à-dire que j'étais dans l'impossibilité de pouvoir accéder à l'information que contenaient les 16 premières pages. Bon, ah bien. Voilà. Bon,
c'est pas encourageant pour la recherche de la vérité.
Hein. Ben, pas du tout. Mais enfin, disons, De Moutard vous a indiqué tout à l'heure les pratiques coloniales concernant la culture et la pédagogie de l'effroi, de la terreur. Ça, c'est ancestral hein, dans les colonies. Mais ceci dit, ça date même de l'époque romaine, hein, vous savez. Ça, c'est une tradition occidentale. Alors... Sur le plan de la mémoire, la terreur est aussi active.
Bon, dites-moi... Il y a un autre élément alors qui renvoie à ce qui s'est passé aussi à Paris en 61. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit du 26 au 27 mai dans la cour de la sous-préfecture? Parce que quand on entend ça, c'est...
Oui, allez-y. Oui, oui, c'est effroyable. Mm. Nous le devons au témoignage de Monsieur
Jazor.
Hubert Jazor, le père Jazor. Mm. Je ne parle pas des plus jeunes. Alors, le père Jazor a été arrêté à sa sortie de l'hôpital, etc. Et il nous dit très clairement, pour faire court, les corps refroidissaient au-dessus de moi, c'est-à-dire qu'il a été jeté dans un paquet de corps, c'est-à-dire que au fur et à mesure des arrestations dans la nuit, justement du vendredi, parce que je peux vous affirmer pour avoir été actif dans cette nuit du 26 mai avec des camarades, bon, que je vais pas nommer spécialement, eh bien, nous pouvons dire qu'il y a eu énormément d'arrestations cette nuit du vendredi. Et donc, Monsieur Jassot fait référence à ces arrêtés qui étaient amenés soit à Michel, à la gendarmerie, ou encore plus précisément dans la cour de la sous-préfecture. Et il fait référence à ces corps qui étaient ce moment-là torturés, battus, etc. et qui étaient jetés dans un tas. Et c'est son propos qu'on a repris en disant « on va les foutre à la darse », c'est-à-dire qu'on va faire partir tous ces corps, comme ça a été fait en 1802, au lendemain du massacre de Bembridge, avec à Fouillol, avec les 150 corps qu'ils ont exécutés à Fouillol au niveau de l'université, et la mer rougit par ce sang.
Pardon de vous couper, mais c'est vraiment terminé en tout cas. Merci infiniment pour vos témoignages.
Déjà.
Je vous avais dit que ça passerait vite. Hein. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.